Bonjour et bienvenue sur Radio Roliste, le podcast du jeu de rôle. C'est le numéro 30 et nous sommes en janvier 2014. Bonne année à tous, amis auditeurs. Pour ce numéro anniversaire, les amis, je suis en compagnie de celui qui vous a tous manqué, à moi le premier, Cyril.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Cyril.
Bonjour, Cyril.
Je suis également en compagnie de celui que l'on nomme le taxidermiste des systèmes de jeu, Yannick.
Bonjour à tous.
Le narrativium coule dans ses veines et c'est ce qui lui donne ce timbre de baryton, c'est Callisto.
Coucou.
Et enfin, parce qu'un vrai podcast se doit de le recevoir au moins une fois, Laurent Doucet.
Salut.
Pour cet épisode des 3 ans du podcast, je ne savais pas trop quoi faire, à vrai dire. Je me suis demandé s'il était bien nécessaire de faire tout ce que nous avions prévu, notamment la location de cette limousine blanche avec les fanions radio-rôlistes à partir de laquelle nous aurions enregistré l'émission, un verre de champagne à la main, tout en sniffant de la coke sur les fesses de croc. Ouais, vraiment, ça aurait été trop. Aussi, ai-je préféré revenir aux sources, de la bière, de la junk food et le sommaire de l'émission qui est le suivant. Nous avons tout d'abord Dragon de Poche, puis Hexagone, enfin Trésor Légendaire pour la première partie, puis Bliss Stage, Knights Black Agent et le guide de Dungeon World. Et nous allons tout de suite commencer avec Yannick pour Dragon de Poche.
Alors, on va parler tout de suite effectivement de Dragon de Poche. Dragon de Poche est un petit livret de 42 pages, au format un petit peu plus grand qu'un A6, qui a été écrit et illustré par Le Grumpf.
T'as hésité en...
Non, j'hésitais à dire LG, mais je préfère dire son nom complet, Le Grumpf. Ce qui n'est pas son nom complet, mais en tout cas son pseudonyme complet.
John Grumpf.
John Grumpf, pour, voilà, qui fait partie donc des éditions John Doe. Le livre coûte 2 euros en PDF sur lulu.com et 5 euros en papier. L'intérieur est écrit assez petit, la maquette est très très dense, mais il y a quand même pas mal de choses, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est très condensé, il faut de bons yeux pour le voir. Donc c'est un système de jeu de rôle Metfan sans univers défini. Donc je vais essayer de le détailler un petit peu. Donc ça commence par une création de perso. Alors il n'y a pas d'univers du tout, hein. C'est vraiment, ça commence très brutalement, il n'y a pas vraiment d'introduction, c'est direct, quasiment directement création de perso. Un personnage peut faire partie d'une des 4 races indiquées, habituelles, on va dire humain, elf, nain et hobbit. Et il peut être de 3 classe de personnages, de 3 métiers, que sont les chevaliers, les sorceliers, qui sont des mages, ou éclaireurs, qui est l'aventurier classique, le roublard habituel. Chacun de ces éléments apporte des capacités spéciales, comme par exemple une récupération instantanée de points de vie pour le nain, ou un entraînement martial qui permet de faire des dommages en plus pour le chevalier. Bon, c'est assez simple. Il y a 6 caractéristiques. Allez, force, intelligence, sagesse, constitution, charisme.
Charisme.
Voilà. Et qui vont de plus 1 à plus 3 au départ et qui peuvent monter jusqu'à plus 7. Il y a une série de compétences qui donnent un bonus fixe de plus 4 si on les possède lorsqu'on va faire son jet. Donc il y a une grande liste de compétences. Si on a la compétence, on a un bonus directement de plus 4. C'est binaire, ça marche très bien. Ensuite, on a des points de vie, des points de magie, des points d'héroïsme qui complètent le personnage. Les points de vie pour encaisser les dommages, les points de magie pour lancer des sorts, sachant que tout le monde peut lancer des sorts. Et les points d'héroïsme qui permettent de faire comme d'habitude, relancer des dés, avoir des bonus ou récupérer des points de ci ou ça. Donc c'est très très simple, la création de perso elle se fait maximum en 15 minutes, c'est une distribution de points, il y en a vraiment pour pas longtemps, et vous allez voir que tout le jeu tourne autour de ce genre de concept. Vraiment il faut que ça aille vite, on se prend pas la tête, il y a pas de trucs super complexes, c'est extrêmement direct. Le système de jeu lui-même, je vais juste vous parler du jet de dés parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre. On utilise 3 dés de 6 dont un des dés est d'une couleur différente. Lorsqu'on doit faire un jet, on lance les 3 dés de 6, ou des fois 2 dés de 6 seulement, si on est par exemple blessé, si on est entravé ou des choses comme ça, si on a un malus. On fait la somme de ces dés de 6 et on ajoute une carac et une compétence, si on la possède, et on doit battre un facteur de difficulté de 15 en moyenne. Jusque-là, rien de compliqué. Pour les combats, c'est la même chose, on fait une initiative, on a un jet d'attaque contre une difficulté fixe qu'on va appeler classe d'armure. Les dommages sont égaux aux dés de couleur, auquel on ajoute la force ou la dextérité en fonction de l'arme utilisée. Pour l'instant, tout le monde est en terrain connu, il me semble. Il y a une petite originalité intéressante, il y a 6 prouesses, enfin disons 6 options tactiques, spéciale qui donne des bonus, par exemple qui permet de faire une attaque supplémentaire ou des choses comme ça, mais qui va aussi entraîner une gêne, un petit problème, qui va être choisi ou tiré au dé par le MJ. C'est-à-dire que pour la même prouesse tactique, tu peux avoir une gêne différente en fonction du moment où tu l'as fait et du désir du maître de jeu.
Et c'est juste classiquement un défaut que tu dois jouer ou
Oui, c'est
quoi.
Un défaut que tu dois jouer. C'est par exemple, un coup de fatigue, ça peut être une dépense de points de magie supplémentaire, ça peut être des choses comme ça. Alors comme c'est tiré au hasard ou choisi par le MJ, bah, tu sais jamais trop au moment où tu vas le faire si... ce que tu vas encaisser en retour. Donc moi je trouve ça c'est rigolo.
C'est,
okay.
c'est une petite variation sur les risques et prouesses qu'on avait dans d'autres systèmes.
Ouais, c'est une petite variation que je trouve marrante. La magie elle-même, il y a 25 sorts qui sont décrits en 5 niveaux, donc 5 sorts par niveau. Tous les aventuriers connaissent ces 25 sorts de base qui sont vraiment des sorts extrêmement classiques. On a lumière, soin, projectile magique, téléportation,
lecture de la magie,
invisibilité, les choses comme ça. Tous les aventuriers les connaissent. Par contre, pour pouvoir les utiliser, il va falloir dépenser des points de magie. Et les points de magie sont dépendants de l'intelligence que tu as. Donc, de manière extrêmement naturelle, si tu joues chevalier et que tu mets moins d'intelligence, tu vas quand même pouvoir lancer des sorts, mais de manière beaucoup moins poussée et des sorts beaucoup moins puissants. C'est extrêmement, c'est très élégant. Ça, c'est vraiment. Très simple. Ouais.
Les sorts qui provoquent des dommages, des trucs comme ça. Dans le DK, par exemple, t'avais une espèce de notation stricte qui faisait qu'un sort d'un niveau donné ne pouvait faire que ça maximum. Et est-ce que c'est le même genre de choses là ?
A priori, il n'y a pas de truc exponentiel. Enfin, je sais pas comment te dire, tu vois, genre. Tu vas pas faire 20 points de dommage par exemple avec une épée ou avec un sort, donc ça reste toujours dans. C'est un peu un projectile magique, c'est un peu comme si tu donnais un coup d'épée quoi. C'est juste
D'accord.
que tu le fais à distance.
Okay.
C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Okay. Et ça monte pas des niveaux incroyables.
D'accord. Mais par contre, c'est variable d'un sort à l'autre.
Oui, c'est variable d'un sort à l'autre. Tout
okay.
à fait.
D'accord.
Il y a des sorts niveau 5 qui ont des gros effets, puis des sorts niveau 2 ou niveau 1 qui ont des effets beaucoup beaucoup plus simples.
Oui, évidemment, mais à niveau équivalent.
Je pourrais pas te répondre. J'ai pas fait attention okay. à ça. Ça m'a pas sauté aux yeux. Alors ensuite, donc une fois qu'on a passé cette partie pure règle, qui est vraiment, alors je répète, je vais le répéter tout le temps, qui est très simple, très direct, extrêmement facile à prendre en main, mais pas simpliste. On arrive à ce qui m'a plu le plus, qui est la création d'aventure. Donc il y a tout un chapitre sur comment est-ce qu'on fait une aventure sur le pouce, très rapidement en 4 jets de dés. Donc le premier jet de dés détermine l'accroche. Donc comment est-ce que les aventuriers arrivent en fait sur la mission. Le deuxième jet de dés donne la mission elle-même. Le troisième donne le lieu principal où ça va se passer. Et la quatrième jet de dés donne l'opposant majeur.
Ça donne l'adresse de l'auberge.
Ça donne l'adresse de l'auberge. Non, c'est pas forcément. Bah, remarque, ça peut être là que c'est pas le scénario, mais ça donne l'adresse du donjon plutôt.
Oui.
Et le quatrième donne l'opposant principal, le grand méchant, la liche, le dragon que tu vas combattre à la fin, etc. Ensuite, une fois que tu as fait ces tirages-là, sachant que tu as des tables assez grandes qui donnent pas mal d'éléments, donc rien qu'en multipliant les éléments, tu as de quoi faire des milliers, mais en fait des dizaines ou des centaines d'aventures, tu as une série de questions donc qui te sont posées, enfin auxquelles le MJ doit répondre pour créer son scénario et qui vont ajouter des complications. Donc c'est à toi de décider quand tu crées ton scénario assez rapidement, on va dire un quart d'heure avant le début de la partie, ce que tu vas vouloir ajouter comme complication en répondant à des questions simples, genre qu'est-ce qui peut mal se passer. C'est assez simple. Est-ce qu'il y a un figurant, une situation que je veux absolument mettre en scène. Tu dis bah voilà, je vais absolument faire un combat au sabre laser sur des îles mouvantes au milieu de la lave. Bon, tu veux absolument le placer. Est-ce que les aventuriers ont eu de bonnes raisons de refuser la mission ? C'est intéressant à se poser comme question pour arriver à faire quelque chose qui soit à peu près cohérent et que tu te retrouves pas le nez dans l'eau au bout de 10 minutes de partie parce que les joueurs ont effectivement aucune raison d'accepter. Donc c'est très formalisé. Moi je trouve assez bien formalisé, c'est bien expliqué. À mon avis, c'est la vraie valeur ajoutée de ce livret, c'est ces tables et les questions qu'on doit se poser. C'est con, hein, mais je le verrai très bien dans un article de blog explicatif comme on peut en voir sur chez Brandt ou des trucs comme ça. Qui va te donner des conseils de jeu vraiment très directifs, très simples, encore une fois, et pas de tir convolution étrange. Les conseils, donc je disais, sont directs. Les tables, alors il y a des tables absolument partout, et ça donne des idées constamment. Dès que tu ouvres le bouquin, tu tombes sur une table et hop, ça te donne des idées. Moi, je vois plus d'ailleurs le bouquin, pas vraiment comme un jeu de rôle, mais plus comme un recueil d'idées, comme un recueil de tables. Alors quand je disais qu'il y avait beaucoup de tables, en fait, c'est encore mieux. Il y a surtout des listes partout. Donc j'appelle ça des tables parce qu'il y a des petits jets de dés de temps en temps à faire. Mais en vrai, c'est des listes. Partout, dès qu'il y a un blanc dans la maquette, Alors, la maquette est pas mal, elle est serrée, mais il y a quand même des illustrations, oui. C'est lisible.
Ça, c'est vrai qu'en termes de...
Je trouve ça assez fantastique d'avoir réussi à mettre autant de textes et autant de choses intéressantes et autant d'illustrations dans un format aussi petit.
Ouais.
Donc, dès qu'il y avait un blanc dans une maquette, LG a réussi à mettre une table, une liste quelque part. Il y a des listes de tout et n'importe quoi, genre une liste objet en vrac. Voilà, tu pioches.
Oui, ouais, j'étais sur la liste. On dit, tu vas la citer parce qu'il y en a une que je trouve rigolote. Ouais. Qui est, 48 briques font les monstres.
48.
Oui. Briques, en fait, ce sont juste des verbes. C'est ça qui est chouette. Voilà.
Non, mais c'est super intéressant.
C'est vraiment pas mal.
Genre les objets en vrac. Hop, t'as envie de décrire n'importe quoi. Hop, tu chopes un ou deux objets et ça te fait des petits détails et t'as l'impression que le truc il est fantastique alors que t'as juste ajouté un ou deux détails auxquels t'aurais pas forcément pensé si tu l'avais pas eu sous les yeux. T'as genre 83 trucs bizarres pour typer un figurant. Voilà, t'es un figurant, tu poses tes yeux n'importe où.
Le problème, c'est qu'ils risquent de se retrouver tous avec énormément de défauts.
Non, il suffit.
C'est un œil qui cligne, qui boite, et en plus.
Bah, écoute, c'est une
non,
manière.
Non, mais parle lentement en marquant des pauses.
Voilà, t'as tes yeux qui se posent dessus, tu dis tiens, voilà, et ça type un figurant. Genre, t'as 300 noms comme ça. La table, elle s'appelle 300 noms comme ça.
Oui, c'est vachement pratique. Ouais.
C'est super pratique.
Vite un PNJ.
Vite un PNJ.
Je connaissais mon ancien MJ de Vampire. À chaque fois qu'on lui demandait un nom, il disait bon,
John.
Le type te donne son nom. Oui, mais il s'appelle comment ? Incapable de trouver un nom.
Bah, ouais.
Pour lui, je pense qu'il aurait adoré.
Ouais, voilà. Bon, donc, il y en a absolument partout.
C'est mieux que d'utiliser un bottin, quoi. Tu peux lui offrir ça à ton MJ.
Moi, souvent, je me sers des génériques de films.
Jean-Jacques Cogirep.
Au vu des noms qu'il y a, ils sont pas dans le bottin.
Non, parce que c'est typé médiéval fantastique. Donc voilà, vous avez compris. Ah bon, à la fin, il y a les créatures, il y a les objets magiques, il y a deux, trois trucs comme ça. C'est en licence open, je sais plus quoi.
Donc, après, en OGL, un truc
ouais,
comme ça.
Donc a priori, on peut récupérer les règles, en faire ce qu'on veut. Je pense qu'il a fait ça vraiment comme. J'allais dire comme une éjaculation, toi, le truc il est sorti d'un coup. Pac! Et il s'est dit voilà je vais en faire un truc et il a tout produit d'un coup et ça se sent et franchement ça se tient bien, c'est vraiment intéressant et puis il y a plein de petites idées un petit peu partout. Moi je trouve que les 5€ pour le bouquin en papier c'est trop cher parce que c'est vraiment tout petit quoi, mais c'est pas de la faute.
C'est du Lulu quoi.
Ouais voilà c'est pas de la faute d'LG, c'est vraiment c'est les frais de port, c'est
pas non plus
c'est les frais de fabrication.
En fait je crois qu'il y a presque plus de frais de port que de
C'est possible, il y a rien dedans, il doit pas gagner d'argent dessus. Ouais.
J'ai une petite question moi étrange. Tu dis que c'est à la fois il y a pas de monde et à la fois il type ça en appelant dragon et en mettant des hobbits. Donc c'est.
Et quoi pardon.
Il type ça en appelant ça dragon de poche et dans les races il y a un hobbit. Donc c'est orienté ce que tu disais médiéval fantastique. Et je me demande pourquoi il a à ce point-là dépuré que ça comme ça. Pourquoi il a pas carrément fait. 4 races qui seraient vraiment posables dans n'importe quel univers.
Bah parce que là c'est posable dans n'importe quel univers. Quasiment tous les univers, t'as un truc petit qui est rapide et qui a une fronde.
C'est un peu comme Oltrey, il y a pas vraiment de monde.
Ouais, c'est un peu
comme
Oltrey.
Parce que
Oltrey, tu le crées à la volée. Là c'est un peu la même chose.
Oui, voilà, c'est
en fait, ça s'appuie un peu aussi sur la mode du old school Renaissance où on prend les races qu'il y avait dans les bouquins de D&D et puis voilà quoi.
Non mais c'est.
Non, c'est, moi je pense que c'est plutôt comme ça.
Ouais. Et d'ailleurs.
Les trois classes, c'est des trucs évidents.
Enfin, à propos de typage d'univers, il est bien parti pour sortir d'autres versions, mais là ce sera. Il est prévu un chrome de poche pour jouer aussi Cyberpunk.
Tu peux le décliner,
ouais, ça a dû même s'écrire quelque part aujourd'hui, ça, chrome de poche, parce que j'ai lu dans la journée.
J'ai lu ça sur Cassius Nou hier.
Et je serais pas du tout étonné et je serais tout aussi intéressé. Donc les 2€ pour le PDF, je pense que ça les vaut, un café, ça va quoi. Moi j'ai bien aimé le format du livre parce que ça, c'est vraiment petit, les listes et les tables donc sont vraiment intéressantes et je trouve le côté très évocateur de ce qu'il y a dans ces listes là me plaît beaucoup. C'est-à-dire que je sais pas, effectivement un mec qui a un nez qui cligne, je sais pas, bon bah, moi ça me fait, ça m'évoque des trucs. Et le fait, alors moi ce que j'aime beaucoup, vous allez trouver ça marrant, mais c'est un peu une constante chez moi.
Non, j'allais dire une soirée dans un bar.
Ouais, un nez qui cligne.
Bah non, mais à la fois je pense qu'une description, quand t'ajoutes ça, c'est un tout petit détail, mais ça marque. Je pense,
ça marque.
Les joueurs
ça te type tout de suite, même pour toi, ça te type tout de suite le PNJ quoi. Tu rajoutes ton nez qui cligne autour du truc et pouf voilà.
Ah, t'es bien la partie avec Yannick et tout.
Il y a un nez qui cligne dans la taverne.
Le scénario était bien, je sais pas.
Je crois qu'il avait une conjonctivite. Parce que tous ces PNJ clignaient de l'œil.
Non, donc moi, ce que j'aime bien par rapport à ça, enfin à ce livre-là, c'est qu'il fait quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup et vous allez sans doute vous faire marrer. Mais c'est qu'il remplit sa promesse.
Tintin.
Oui.
Il remplit sa promesse. Ça s'appelle Dragon de poche. Il y a des dragons, tu le fous dans ta poche et tu joues immédiatement avec. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de pipeau, il n'y a pas de grand truc où se la pète ou machin. C'est. Voilà, j'ai fait
ça.
Désolé,
jouer mais avec. Les dés ne sont pas livrés avec.
Non, les dés sont pas livrés.
Planche à découper.
Non, 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 mais il aurait pu faire. Il aurait pu effectivement. Quand je viens d'y penser. Il aurait pu faire
un set avec 3D.
Non, non, non. Simplement dessiner des dés sur chaque page.
Ah, il est tiré en.
Quand tu, non, tu tournes
et
les pages.
Et flipper les pages.
Le problème le plus grave, c'est qu'il livre pas les joueurs non plus avec. Du coup, c'est pas entièrement vraiment.
Non, c'est pas effectivement super.
Non, mais ça, c'est pas grave. Je joue avec mes amis invisibles.
Bah, tu sais, aussi dans ta poche.
Mais voilà. Ça sent le truc que tu peux emmener en vacances un peu. Je
exactement. Il n'y a pas de fioriture. Tu le mets dans ta poche. Tu pars avec. Tu fais une partie sur le pouce. Laissez-moi une demi-heure. Je vous fais un truc et c'est réglé.
Voilà, dans le bus, tu peux parler aux gens dans le bus et leur dire ah, vous voulez pas faire un petit jeu de rôle là
hey.
C'est combien d'arrêts toi
hey, petite partie,
12 arrêts
hey,
allez,
vas-y. Tu joues toujours pas un peu un nain là.
Et s'il te plaît.
Donc il y a une petite feuille de perso qui est super laide à la fin, mais il le sait et il a fait une autre feuille de perso à télécharger en PDF qui est de meilleure qualité.
D'accord.
Voilà pour Dragon Poche.
Bon, eh bien passons sans plus attendre à Hexagone.
Ou plutôt même c'est Hexagone Universe.
Par Callisto.
Voilà, je retransmets...
Hexagone Universe.
Ouais.
Le nom complet.
Alors, ça a été écrit par Romain Duissier et Laurent Devernet, c'est sorti chez Les Doux Singes, ça fait 160 pages noir et blanc en format A5. Le jeu nous propose de jouer des super-héros en exploitant une licence, celle d'Hexagone donc, comme cela avait été un peu fait précédemment avec l'univers de la Brigade Chimérique, qui même était aussi basé sur une BD. Les auteurs faisaient d'ailleurs partie aussi de cette même aventure. Hexagone, c'est le nom de l'univers partagé par des comics français, partagé au sens où tout le monde se met un peu d'accord sur l'histoire globale. Ça existe depuis 1963, mais ça a évolué assez lentement, sans trop de crossover, avec des personnages... attention, je vais citer les noms, vous n'allez pas les connaître. Hein. Omicron, Ozark, Vampus, Kit Kappa. Alors, il y a eu un peu de résurgence ces dernières années avec la sortie de Strangers, qu'on trouvait même chez Album, en kiosque, un peu de trucs comme ça. Enfin, et récemment de la réédition des ouvrages chez Rivière Blanche. Il y a même eu un recueil de nouvelles avec plein de noms de jeux de rôle parmi les auteurs.
Oui,
plein de noms de revistes surtout.
Dont des gens qu'on connaît.
Oui. Dont des gens qu'on connaît. Par contre, moi je connaissais pas du tout cet univers-là.
Ah ben personne.
Enfin, mais c'était les trucs parus chez Lug ou je
tout
sais
à fait,
pas quoi.
Tout ouais. à fait. Bah, j'ai pas réussi à trouver ça dans ma cave, mais j'avais les premiers épisodes de Ozark. C'était donc c'est un espèce d'Indien dans une.
Dans la ville.
Dans sa réserve avec des indiens alcooliques et tout, mais il touche un cheval sacré, ce qui lui permet de donner des pouvoirs ridicules à des gens dans un cirque.
Ah,
et du coup, tout de suite, ça va mieux.
D'accord.
Bon. Le pitch est impressionnant.
Bah, c'était dans la revue.
C'est marrant parce que
ça, c'est du super-héros. Waouh.
Il me semble que c'est le personnage qu'Éric Nieudan a repris pour faire une nouvelle dans Hexagone, qui est plutôt pas mal.
Moi, j'ai appris du coup que Ozark, hein, donc ce fabuleux, c'est quand même le sorcier suprême du coin, quoi. Donc c'est un peu prends-toi ça dans les dents, Docteur Strange. Hein. C'est parce qu'il y a du niveau en face.
Ah, mais il est français.
Il y a même eu du roman aussi, justement, par Romain Duissier. Hein. Alors.
Juste une question, est-ce qu'il y a Super Dupont dans le tas ?
Non, pas du tout. Non,
il
était recalé, hein, c'est ça, parce qu'il respectait pas la continuité. C'est important, c'est ça. Bon. Donc les 90 premières pages, donc 176, hein, c'est du background, entrecoupé des caractères, des personnages emblématiques de l'univers Hexagone. Donc il y a une vingtaine de pages d'historique générale, et des plus gros pavés sur le Clash. Alors le Clash, c'est les gentils pour qui on bosse, parce qu'on est dans du jeu à mission. Et le Crimen, les méchants sur qui on tape. Même si on se place à un moment de la chronologie où le Clash et le Crimen sont censés être affaiblis, c'est histoire de laisser la place un peu à d'autres groupes, comme le Spider, etc. Grosso modo, les gentils et les méchants, c'est assez proche. Hein. Tous les deux, ils ont leur équivalent d'héliporteur, les Léviathans d'un côté, le Behemoth de l'autre. Ils ont des agents qui ont les mêmes caracs, etc. Bon. À ce stade-là, sur la forme, il y a de la coquille pour tout le monde, il y a de la frise... Bah oui.
Il y a de la coquille.
Il y a de la coquille.
Je vous en mets combien de la coquille? Bon, il y a de la frise chronologique avec des dates sur une seule moitié, ça je la trouve pas mal. Il y a de l'ardite, mais bon, hein, bon. Et une petite inversion de page sympa, à un moment donné, genre on t'explique le contenu de la section avant qu'elle ait commencé, enfin c'est sympa. Et justement, c'est la section sur les règles, donc on va passer aux règles. Alors, un perso, il est créé avec un concept et une origine. On donne des idées de questions qu'on peut se poser, savoir un petit peu d'où vient le bonhomme, mais il n'y a pas vraiment de liste d'origine, genre est-ce que tu veux être mystique, sorti de la science folle, extraterrestre, né d'une mutation, etc.
D'accord, c'est pas par thème donc...
Non, c'est pas. Donc de cette réflexion assez peu cadrée, en fait, doit surgir l'ébauche des motivations des personnages. Alors, important aussi, chaque personnage a deux jauges. Une jauge d'énergie, c'est la vaillance globale du personnage, et de l'audace, qui est donc la capacité à se dépasser.
Mmh.
Chacune varie de 4 à 6 à la création. On a des traits ensuite qui sont répartis entre les motivations, les talents et les pouvoirs. Alors les motivations, on en choisit une qui est personnelle, une qui est une motivation de groupe, et une qui lie à un autre PJ. Et on leur affecte un niveau allant de 1 à 3. Donc au début du jeu, les motivations sont clairement hiérarchisées. T'en as une à 1, une à 2... Une... Ok. On a des talents qui sont eux aussi notés de 1 à 3 au début. Un perso en possède 8 sur une vingtaine, parmi lesquels bon, survie, mondanité, administration, business, politique, art, stratégie. J'étais un peu surpris de retrouver ça en fait. Par contre, il ne va pas y avoir de charme persuasion. Éventuellement, il y a de l'autorité pour remplacer, ou il n'y a pas de notion non plus de vigilance ou de perception. Par contre, il y a de la discrétion, mais bon, c'est une sous-spécialité de crime. Bon, j'étais un peu. C'est pas tout à fait la liste classique que je m'attendais, notamment pour du super-héros. Bon, après, il y a des classiques spécialités pour chaque talent hein, qui vont donner des bonus sur certains types de jets. Les pouvoirs, parce que ça, c'est quand même un peu le cœur du sujet.
Oui.
Chaque pouvoir correspond en fait à un effet précis. Ça, c'est pas mal. Donc, attaque, défense ou utilitaire. Hein, donc, si je veux faire la torche des quêtes fantastiques, par exemple, va falloir que j'achète un effet, donc un pouvoir pour le vol, un pour les boules de feu, un si je fais la supernova où j'explose tout, un pour réchauffer mon environnement, par exemple.
Okay.
Là, on est sur une échelle de 1 à 5, donc supérieure à ce qu'on avait en motivation ou en talent. Et on commencera donc avec 3 fois 3 points de pouvoir à répartir. Eh oui, pourquoi 3 fois 3 points ? Bah, en fait, c'est juste pour dire que t'as 9 points, mais que tu peux pas en claquer plus de 3 d'un coup.
D'accord.
C'est pareil, la formule, je pense.
Faut entraîner au calcul mental aussi.
Ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait, avec tes 3 points, tu peux très bien dire, en fait, les 3, je prends, avec 3 points, je prends 3 pouvoirs à 1, ou je prends un pouvoir à 2 et un pouvoir à 1. Donc je pense que dire que t'as 9 points et que tu peux pas en mettre plus de 3 dans un seul pouvoir, ça aurait été peut-être plus...
Judicieux. Ouais, bon, enfin, c'est juste un petit problème de formulation.
C'est de la formulation.
C'est du wording, ouais. Et on peut réduire l'addition en prenant des limitations sur les pouvoirs. Hein. Donc, des personnages qui pourraient être un peu moins super pourraient rebalancer des points de pouvoir dans leur talent ou dans le QG. Est-ce qu'on peut avoir un QG de super-héros ? Il y a une petite liste non exhaustive d'effets et de limitations qui est donnée. Hein. Pour le reste, bon, bah, chacun fait sa sauce. Hein. Le QG, voilà, on a un nombre de points qui est proportionnel au nombre de héros. Qu'on répartit dans le QG. Et donc chacun est libre aussi de prendre de ses points pour investir dedans en achetant un laboratoire, une infirmerie, une armurerie, etc. Ce qui donnera en fait des bonus en rapport avec les actions appropriées. Je fais de la recherche scientifique, j'ai un super laboratoire, bah pouf, j'ai mes bonus à manger.
Et si tu as une salle des dangers, ça fait des bonus à tes combats ?
Je crois pas parce que j'ai. Non, en fait, pour ça, il suffit de prendre armurerie. Tu prends une armurerie en fait offensive, je crois, une armurerie défensive, et tu repars avec un gilet pare-balles, ton fusil et compagnie. Ah, c'est ce que je me disais en fait à ce stade-là du jeu, mais bon, on y reviendra plus tard.
C'est forcément des super-héros.
Ouais.
Caricaturant, ça peut pas être Batman, qui est. C'est une question idiote, mais.
Théoriquement,
c'est
oui.
C'est pas le but.
Si, c'est ça. Tu fais du super-héros Silver Age. Donc c'est bien ça, tu imagines Batman.
Et c'est-à-dire Batman, je mets très peu points de pouvoir, par contre je mets tout en QG.
En QG,
en armurerie.
En talent aussi, effectivement, oui, aussi d'une certaine manière, un peu en armurerie, etc. Alors pour faire un... Ouais.
Vas-y.
Est-ce qu'on peut avoir une cape?
ouais, et c'est même.
Je
pense qu'une fois que tu prennes le bouquin, ça tu verras un peu.
Il ne faut pas avoir de cape, c'est pas bien.
Si on se prend les pieds dedans.
Alors, pour faire un jet, en fait, c'est un style un peu proche de ce qu'on avait dans le Cortex Plus, hein, tous les Smallville et Marvel Heroic. On prend un trait de chaque catégorie, donc on prend une motivation, un talent et un pouvoir. Ça, c'est ce qu'on appelle créer sa main. C'est une main de dé de 6. Et sur chaque dé de 6 lancé, en fait, le 3 et le 6 représentent des réussites. Et le 6 est explosif.
Okay. Ok, d'accord.
Alors, il n'y a pas de rationalisation particulière pour le 3, hein, parce que je vois des regrets.
De rationalisation
particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, ça aurait pu être le 1, le 2. J'aurais pu dire, vous réussissez sur un 2 et un 5, et le 2 est explosif. Voilà.
Ouais, mais qu'il n'y a pas de notion de valeur.
Non, ouais. Ça va pas.
C'est juste deux chiffres.
C'est facile à s'en souvenir, quoi.
Le terrain est peut-être né en mars, c'est le troisième mois de.
Ah oui, peut-être. Ouais.
Oh putain, mais c'est pas possible ça.
Non, parce que Hexagone, forcément, oui, essayons.
Vous avez voulu qu'il revienne ou pas ?
Deux fois le 6.
C'est le retour de Cyril, celui qu'on aime.
Bon, on jette ce pool de dés en essayant d'avoir au moins autant de succès que la difficulté qui s'étale de 1 à 5 avec une difficulté moyenne à 2.
Okay.
Donc dans une opposition, c'est le plus grand nombre qui gagne, etc. Classique. La jauge d'audace, en fait, elle sert à ce stade parce que ces points permettent de jeter des dés de 6 supplémentaires. Ou, autre truc intéressant, de convertir un dé à jeter en succès automatique au lieu de le lancer. C'est ce qu'on appelle un dé qui est sécurisé.
Mais tu peux le mettre à 6 pour qu'il explose ou pas ?
Non, non, il est juste sécurisé, c'est un succès.
Ça fait un succès.
C'est pas, tu prends pas, mais tu prends pas de risque, quoi. Cette jauge d'audace, elle se renouvelle à chaque début de scénario. Donc, à utiliser avec parcimonie. Dans les tests où il y a les spécialités, ça donne aussi, en fait, ça sécurise aussi des succès. Donc, si j'ai discrétion et que je fais un truc discrétion, automatiquement, je sécurise un succès sur mon dé, sur ma main de dé. Et puis aussi, on a éventuellement des pouvoirs. On peut avoir plusieurs pouvoirs qui vont coller pour une action. Auquel cas, des pouvoirs secondaires, en fait, donneront des succès supplémentaires, là aussi. Alors, maintenant, la baston, parce que c'est là, quand même, un peu le nerf de la guerre, théoriquement, dans du jeu de super-héros. Hein. Mm-hmm. Là, ça se complique un petit peu avec l'initiative. Avant le début du combat, il y a un DPJ qui va constituer une main pour l'initiative. Là, classique. Donc, avec une motivation, un talent, éventuellement un pouvoir. Et chaque autre PJ va contribuer avec un trait à lui. Donc genre, je vois le dessus de la scène, donc je vois ce qui se passe, donc hop, je gagne, j'aide un peu mon groupe. Donc oui, voilà.
Chacun contribue.
Chacun contribue d'un trait, en fait. En gros, on trouve une excuse pour caser son trait le plus élevé. En toute logique, c'est un pouvoir. Hein. On retrouve là un petit côté résolution freeform qu'on a dans d'autres jeux, je sais pas, comme Superclick, par exemple, hein, où on demande de résoudre une scène avec « trouve un moyen pour caser un peu ton talent, ton pouvoir, etc. pour résoudre le problème ». Bon, maintenant qu'on a fait une grosse main, on jette tout ça, et le nombre total de succès est réparti sous forme de jetons à chaque tour entre les PJ. C'est-à-dire, admettons, on a fait 10 succès, bah pouf, on a 10 jetons à se répartir tous les tours. C'est assez énorme, 10. Chaque PJ a le droit en plus à un jeton gratuit, hein, histoire de ne pas te retrouver. Ça,
même si t'as fait un sale jet.
Ou... Voilà, c'est ça, histoire que t'aies au moins, tu peux dire, ouais, j'agis en dernier, cool.
Et c'est quoi le nombre de jetons? C'est ton rang d'action?
Tout à fait. Un joueur, un peu en fait, ouais, ça représente ton rang d'initiative pour le tour de combat. Et un joueur peut scinder en fait ses jetons en plusieurs actions, modifiant ainsi son nombre d'actions et son rang d'action. Par exemple, si j'ai 4, bah, soit j'agis une fois au rang 4, soit je me dis je vais agir au rang 3 et au rang 1. Donc la somme fait 4.
Ou 4 actions au rang 1.
Non, justement non. On peut pas faire 2 et 2, pas faire. Il voilà. n'y a pas d'action simultanée.
Il n'y a pas un système comme ça où justement ça me rappelle quelque chose. Il y a un système de règles comme ça où on. Non, c'est pas Deadlands, c'est pas le Trône de Fer, je sais plus.
Alors ça, je sais pas, parce que ça, c'est le truc.
Ça me dit quelque chose.
Le truc qui m'a rien évoqué. Et je trouve ça pas mal. Ouais. Là qu'on est en baston, en fait, la jauge d'énergie devient aussi une réserve de combat. Donc elle est renouvelée à chaque tour. Elle est utilisable elle aussi sous forme de dés de 6 supplémentaires ou de jetons d'initiative. Donc on peut booster son initiative en dépensant de l'énergie. Mais là où ça devient un petit peu plus subtil, on doit au minimum en claquer un par action ou par défense. Donc si j'ai 5 points d'action, si j'ai 5 points d'énergie, bon bah admettons je m'en mets un en initiative, il me reste plus que 4, je pourrais faire 4 actions.
Je crois que j'ai retrouvé, c'est le jeu de rôle basé sur la BD justement de super-héros steampunk.
Ah bah c'est la Brigade Chimérique.
La Brigade Chimérique.
Ouais, bah,
ils ont peut-être repris la même idée.
Il n'y a pas un peu le même concept
J'en ai rien retenu.
Bon, bref, excuse-moi.
Ça m'a aidé à comprendre la BD.
Je connais la BD, mais je ne savais pas qu'il y avait un jeu de rôle adapté sur deux films.
Moi, j'ai joué, j'avais un super-héros communiste qui venait d'un univers parallèle.
Non, mais c'est extrêmement
moi, je vais mettre mon t-shirt, me parle pas de ton perso. ça ne m'intéresse pas.
Pourtant, un personnage communiste.
C'est un univers où Byzance avait survécu et dominé le monde entier. Et était devenu communiste.
D'accord.
Et Fritz Lang est un super héros.
Alors vas-y, continue.
Ouais. Donc, comme je disais, ouais, en fait, on doit claquer au moins un point de la jauge d'énergie, en fait, donc sous forme de D6, hein, par action ou par défense. Donc, si on a une très mauvaise initiative, et donc du coup, on va devoir se défendre tout le début du tour, bah potentiellement, à la fin du tour, on n'a plus rien, quoi. Et on est obligé de se rabattre sur des éventuelles défenses passives, une armure, un champ de force, si on n'a plus que ça. Puisque chaque défense n'est pas passive, mais vraiment, encore une fois, un pool de dés, hein, avec motivation, talent et pouvoir. Bon, qui dit défense dit qu'à un moment donné, on se prend des dégâts, et les dégâts, justement, c'est la différence entre les succès d'attaque et ceux de défense. Donc ça peut être assez violent aussi, en fait, en termes de dégâts, et surtout qu'ils sont... les dégâts, ça va être des réductions directes de la jauge d'énergie. Donc cette fameuse jauge qui sert d'initiative, qui bride aussi le nombre d'actions, etc., c'est aussi tes points de vie. Autant dire que je pense que les combats sont pas très longs et les soins sont importants parce qu'un perso ne récupère qu'un point d'énergie par jour de repos. Donc en gros, s'il n'y a pas de soigneur dans l'équipe, ça va être un petit peu délicat.
Ça fait pas très super-héros ça d'ailleurs.
Non.
D'accord.
Tout ce qui n'est pas du dégât, bah, c'est OMJ de gérer ça en se basant sur son bon sens et sur l'équilibre ludique. Un exemple est donné où la marche de succès devient des dés de malus pour l'adversaire. Genre, j'essaye de déblouir machin truc muche, voilà. Bon, ce qu'il faut comprendre, mais c'est seulement après l'avoir lu sur le forum, hein, c'est pas vraiment un exemple, mais il faut considérer ça comme une règle. bon, ça peut, si ça peut dépanner des gens. On a quelques suggestions aussi sur l'importance de la déco pour les scènes d'action, hein, le décor, ce pilier qui va te tomber sur la tête et compagnie, et sur les péripéties.
Les lancers de lampadaires, les trucs comme ça.
Ouais. Les péripéties, en fait, c'est des événements scriptés qui arrivent à un moment précis, quoi qu'il se passe. Donc, en gros, quoi que fassent les joueurs, genre, le pilier va tomber au tour 3, s'il y a encore quelqu'un debout au tour 3.
Mais il faut qu'il le dise, ou ça peut être une surprise quand même.
Ah oui, c'est la surprise du MJ. Ouais.
D'accord.
Ouais,
mais il le dit pas au tour 3. Bah, enfin, il le dit au tour 3, il le dit pas
c'est
avant.
Ça. Bah, c'est ça. C'est,
il dit ah, ah, nous sommes au tour 3, le pilier te tombe dessus.
Et voilà. Et mais ça se trouve, t'es plus en dessous. Mais bon, c'est pas grave.
Mais en fait, c'est juste une liste d'événements qui peuvent se produire.
Ouais, mais c'est assez scripté. C'est ça, en fait. Je crois qu'il y avait une insistance. Bon, après, j'ai peut-être mal lu ou mal compris, mais je crois que c'était vraiment.
Parce que t'avais la même chose en Feng Shui, t'avais la même chose en plein de choses, mais c'est plein. C'est plus des.
Ah oui, non, mais c'est pas des.
C'est des éléments pour dynamiser le combat.
Tout à fait. Mais c'est fait pour ça. Mais
ça explose et.
T'as la notion de. En gros, voilà. C'est à ce moment-là, il se passera ça, mais en fait, c'est pas des trucs à conséquence. Ouais, si t'as prévu ta liste, c'est pas comme le je pioche dans ma liste de dragons de poche où j'ai un pilier qui tombe.
Ouais. Ouais. D'accord.
C'est, tu scriptes un peu ton combat en fait. Bon,
ouais.
Ouais, les détails, encore une fois, hein, ne pinaillons pas. L'audace, justement, l'audace, ça va permettre d'activer des éléments de décor. Comme tous les jeux, un peu où on a des activations d'aspects de la scène ou un truc comme ça, tout ce qui est Fate ou Marvel Heroic, encore une fois. Les effets sont variables avec une liste de suggestions pour le MJ, mais c'est beaucoup plus rentable que la simple dépense d'un point d'audace. Hein. On se rappelle, le point d'audace, ça nous permet de gagner un dé, et là, quand on exploite le décor, on gagne de 2 à 6 dés, voire des dégâts directs à l'ennemi. Donc, conservez vos points d'audace pour le combat. Hein. C'est important.
Ah bah oui, c'est là où, justement, si ça permet d'utiliser un petit peu le décor et d'avoir des scènes un peu cool. C'est là où c'est le plus intéressant.
Tout à fait. Alors pour...
Donc là, par exemple, tu peux dire je vais faire tomber le pilier, ça me coûte un point d'audace et ça fait
voilà,
X points de dommage.
Et le MJ voilà, calcule si ça te donne des bonus selon ce que tu dis, si ça fait des dégâts directs, etc.
Il faut faire tomber le pilier sur le méchant. C'est le but.
Non, mais enfin, l'idée, c'est descriptif. C'est-à-dire que tu dis, bah voilà. Grâce à mon audace et mon pouvoir,
ça pourrait être la fosse à requin derrière le méchant qui
sur lequel il a promis de nous faire tomber. C'est...
Voilà, c'est ça. Genre, en gros, bah, je sais pas, tu décris ton machin comme quoi tu le pètes et l'eau se répand partout et hop, ça vous aide à vous enfuir ou attaquer. Etc.
C'est pas mal ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est du truc, comme dit, dans des fates ou des machins comme ça, t'as des notions d'aspects en fait qui sont liés à la scène que tu peux exploiter justement.
Donc, Bloodlust aussi.
Points. Ouais, bah, tous les jeux à aspects en fait.
Voilà, un jeu très ça. Bien. On repart.
Donc, bon, voilà, donc on est en terrain connu quoi. Alors, pour les PNJ, on distingue les hommes de main. Hein. Alors, eux, ils représentent une difficulté fixe à battre. Alors, en gros, genre, eux, c'est difficulté 2, ce qu'on appelle l'opposition, et une durée de vie de la menace qui peut monter jusqu'à 10. L'opposition est égale à la moitié de la menace. Voilà. Donc, si mon truc, c'est une opposition 2, il a une menace de 4, donc ça baisse très rapidement. Ça peut venir aider des copains. Genre, ça peut se mettre derrière le super méchant, etc. Ou alors, tu peux les empiler pour les additionner. Comme ça, à la fin, t'as un gros pool de méchants à taper. On a aussi des seconds couteaux. Donc là, commence à devenir un truc un peu plus balèze. Ils ont une jauge de menace, mais son niveau d'opposition, il faiblit pas pendant le combat. Ça reste fixe. Donc il
tape toujours aussi fort.
Il tape toujours à 3 pendant tout le combat, par exemple. Voilà.
Bam. Mm-hmm.
Et enfin, un PNJ majeur, bon, il a une fiche complète, hein, comme un PJ, et le MJ le fait à sa sauce du moment qu'il a trop motivation. Alors, vient ensuite la troisième partie du livre, scénario.
Alors, je peux faire une remarque ?
Ouais.
Ce que tu nous as décrit de manière assez... assez
Ah ben pour une fois j'ai fait un jeu traditionnel.
Oui,
parce
non,
qu'on
non.
m'avait dit aujourd'hui tout le monde fait de l'indie et tout. Dit,
non c'est traditionnel mais
tu vas te faire la contre-courant.
Tu nous dis ça, t'as pas l'air très enthousiaste. Moi je trouve ça pas mal, même si c'est effectivement pas original. Je vois pas de trucs qui fondamentalement
non,
me renverse.
Non.
Mais c'est plutôt pas mal organisé.
Non mais c'est ça va.
C'est très orienté combat.
Non bah enfin oui.
Enfin moi dans ce que tu décris le système de combat a l'air
développé
tellement développé
ouais,
que
non il est pas tellement développé en fait c'est il est pas non plus
et dans un univers de super héros globalement
c'est à ça qu'on s'attend hein.
Voilà
comme dit en fait vu a priori ça va pas être des longs combats
mais ça va taper fort
ouais je crois que vaut mieux taper fort rapidement parce que sinon tu peux pas te relever pour le deuxième round donc ouais je suis pas j'ai pas eu l'occasion de tester
du coup si le cœur du jeu il est un peu rapide
c'est à dire que là en l'occurrence moi
ça donne un style particulier
au début
quoi.
Tu dois répartir tes points entre audace et énergie bon bah franchement mettez-les en énergie quoi.
En audace tu vas pouvoir frapper super fort si tu tires du décor
ouais mais c'est faut t'as aucune fin si t'as pas d'endurance ou alors tu
ouais mais l'endurance de toute façon elle sert pas à grand chose que tu t'en sers déjà pour
pour agir si justement
pour agir
c'est vraiment le nerf de la guerre l'énergie
ouais mais justement tu vas t'en servir pour agir donc tu vas de toute façon pas pouvoir encaisser donc va falloir taper très fort
mais tu peux claquer tes points d'énergie aussi pour taper fort
oui c'est ça
ouais,
Et donc pour encaisser.
Si aussi. Parce que tu as besoin aussi pour.
Ouais, mais si tu les as, mais
en fait, mettez-toi en énergie quoi. Merde. Enfin, c'est ce qu'on prouve le contraire. Ouais,
le but c'est de faire des scènes comme dans Man of Steel. C'est de faire des scènes où les héros se tapent et détruisent tout et. Voilà,
bah oui, mais d'habitude quand tu vois un comics, les mecs ils se tapent pendant la moitié du bouquin, pas pendant une page. Oui, et après ils ont du mal et il y a des gens qui viennent les
soigner. Et après ils soufflent. Et...
Putain, j'ai pris cher, mec.
Je me repose quelques jours puis je reviens.
Il va se poser dans un coin avec sa serviette sur les épaules.
Aujourd'hui le blaireau d'acier n'a pas démérité aujourd'hui.
Ouais, il y a peut-être juste ce point-là qui est mal réglé, mais
faut voir.
Mais faut peut-être le tester. Moi, ce que tu me décris, même si c'est pas original, je vois qu'il y a pas mal de mécanismes. Qui sont intéressants à coller ensemble quoi. Enfin moi ça
ah
me
oui,
choque
tout à pas. Mais justement, ce sera un peu ma conclusion.
D'accord.
Alors, vient la troisième partie du livre, donc scénario qui commence par 7 pages de conseils pour les joueurs sur la création de personnages de type Silver Age, parce que c'est comme ça qu'on essaie d'émuler hein. Les implications dans les problèmes de société, l'humanisme, les héros qui sont foncièrement bons, les méchants qui sont méchants.
C'est ça Silver Age ?
Bah alors moi je
connais pas.
Moi je suis pas expert, ça me faisait plus penser à l'âge de bronze qu'à l'âge d'argent, mais je ne suis pas expert.
Je sais pas ce que c'est les âges.
Bah, en fait le gold c'est la guerre. Enfin, ouais. Voilà, donc les super-héros, etc. Puis en fait, progressivement, bah, déjà au fur et à mesure que ça se vend moins, t'as aussi. Les personnages sont de plus en plus dans le concret, dans, le,
ouais.
dans la vie du quotidien.
Si je me mélange pas trop, l'âge d'or, ça va être Superman, mm-hmm. qui est complètement manichéen. Enfin, ouais. Voilà. Et quand tu vas voir les X-Men, par exemple, qui sont, je me semble, datés plutôt des années 60, donc post la guerre, on commence à avoir des choses plus complexes, des débats entre eux. Enfin, voilà, on commence à avoir des choses, ouais, une période, puis... des héros plus complexes.
Et
dans les X-Men, il y a Magneto contre.
C'est quoi maintenant l'âge de plastique?
Ouais, c'est plutôt ça.
Non,
ouais.
C'est revenu en plus.
Il y a eu Platine.
Il y a quelques jours, il y a Alan Moore là, qui a déclaré qu'il en avait marre de cette histoire de super-héros et qu'il arrêtait d'en parler en public parce que. Il avait l'impression que ça évoluait pas. Que c'était...
Ça a été repris. Bah, c'est le truc, c'est que c'est arrivé au cinéma comme jamais ça n'était arrivé au cinéma. Parce que le cinéma aujourd'hui peut le faire. Et Alan Moore, il a fait Watchmen et Watchmen, c'est l'archétype d'un truc où il creuse le problème de super-héros de manière très différente. Mais effectivement, s'ils décrivent du Silver Age, c'est le côté, c'est pas, ça doit pas être que des héros complexes. Voilà, il y a un petit côté où
non,
c'est aussi fun, ça doit être drôle et assez épique. Voilà, je pense.
Donc peut-être plus pour un public plutôt jeune, non ? Enfin, les lecteurs qu'on était à 12 ans.
Ça veut dire que ça va être plus Iron Man que Dark Knight.
Mais là pour
t'auras,
le coup,
t'auras
le...
pas le côté sombre comme ça, ou t'auras pas le côté genre Power Man dans les rues de Harlem en train de bastonner un vendeur d'héroïne.
Non.
C'est plus des implications époque âge de bronze pour moi, ces trucs-là.
Mais... Si on attaque Sinistro, qui est le super méchant, qui a une cape rouge. Enfin, voilà.
Ok. Donc c'est un peu. Moi j'ai envie de dire pulp, c'est bizarre à dire.
Non, mais c'est
ça.
Idéologie
de couleur quand on a 12 ans et qu'on.
Non, mais c'est bien aussi.
Ouais.
Ok, mais ça permet de comprendre effectivement dans quoi on joue.
Cyril, donc, je maîtrise pas la dope que t'as été.
Cette petite page de conseil, en fait, je trouve que ça aurait été une très bonne jonction entre la partie background et la partie création de personnages, donc clarifiant bien les intentions des auteurs et en donnant beaucoup plus de questions à se poser aux joueurs. Parce que moi, ne connaissant pas les BD, en fait, à ce stade-là, j'étais pas certain de quoi ressemblaient en fait nécessairement les héros. J'avais bien vu les exemples cités dans la partie background, mais je voyais pas nécessairement ce que j'allais créer. En fait, moi, je croyais que j'allais partir avec un fusil, effectivement, et éventuellement une armure, un truc comme ça, et pour aller. Je sais même pas si on allait tuer les méchants ou juste leur botter les
fusil
fesses, quoi.
pour un super héros.
Bah mais t'as une armurerie, donc tu peux avoir une armurerie.
Ouais.
Mais visiblement, ils ont pas souvent des capes.
Non, ils ont pas trop de temps. Bon, bah, il n'y a pas de cap alors.
Pas de cap, on a dit, Cyril.
On enchaîne avec rien pour la création de scénarios ou les enchaînements logiques de scènes, parce que c'était un peu le gros truc. Comment est-ce qu'on fait pour enchaîner les scènes entre les bastons ou les trucs de ce style-là? Et on nous donne directement après un scénario d'enquête avec une grosse baston à la fin. Voilà. Donc c'est pareil, ça m'a fait, comme j'ai regardé un peu la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., ça m'a fait un peu penser à ça en fait. C'est plus un truc d'enquête.
Ok,
c'est pas positif. Hein, c'est...
Bah, j'ai du mal à voir le super-héros qui rentre dans un bar pour questionner, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le port, si tout va bien.
Moi j'ai une question qui est un peu décalée, enfin pas forcément décalée, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir lu les livres, enfin les BD, de connaître l'univers pour y jouer, ou est-ce que moi je suis super débutant, j'y connais rien, j'ai rarement joué à un jeu de super-héros, mais est-ce que je peux quand même comprendre de quoi on parle?
Alors tu vas comprendre de quoi on parle, maintenant est-ce que tu auras des idées de ce que tu peux faire, ou est-ce que les PNJ par exemple qui vont être décrits, est-ce qu'ils vont avoir, moi je me rappelle même par exemple d'Icons où en fait t'avais chaque PNJ qui était décrit sur deux pages avec des idées des inspi de scénar que tu pouvais avoir avec lui, etc. Là t'as pas ça hein. T'as pas la même profondeur je trouve dans le personnage, enfin il y a des exemples dans le bouquin hein, mais bon
Je te coupe 30 secondes. Ça m'évoque le fait que les enquêtes d'ici, ça veut dire Detective Comics.
Tout à fait.
Et effectivement, Batman dans sa jeunesse, et je pense que Superman le faisait aussi, c'est-à-dire dans les années, on parle encore des années 50-60, ouais. C'était un enquêteur, Batman.
Ouais, moi, je me souviens de Superman qui est un enquêteur.
Superman,
surtout.
Il enquête. Ouais, alors, il enquête déguisé. C'est-à-dire qu'effectivement, il enquête.
Bah, avec une paire de lunettes, quoi.
Voilà, parce que s'il rentre avec sa cape rouge et truc dans le bar en disant salut.
Les gens parlent plus vite, normalement.
C'est comme Obélix, quoi. C'est, il tape et après, il parle. Donc, je pense que c'est vraiment un esprit-là.
Ouais, mais ça, c'est le. Pour moi, justement, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment tu fais pour enchaîner ces choses-là? Genre, ah, Batman n'a pas trouvé la preuve, etc. Et ça, c'est une des grosses problématiques, je trouve, qu'il peut y avoir dans les jeux de rôle de super-héros que je me pose moi-même.
On va conclure. Vous pouvez continuer de parler, il vous reste encore quelques minutes. Oh. En fait, on a été un petit peu long et hélas, on va finir cette partie. Donc, tu peux terminer en 2-3 minutes.
Alors, j'ai volontairement mis de côté les règles.
5 minutes.
Ah, cool. J'ai volontairement mis de côté les règles sur les motivations parce que ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille dans les jeux. On l'a vu, un perso, il a 3 motivations qui servent presque sur tous les jets. Donc, jusqu'à 2 fois par partie et par perso, un MJ, il est en charge d'orchestrer une épreuve de motivation. Donc, c'est un choix cornélien pour le personnage qui devra choisir entre suivre sa motivation, gagner plein d'XP et l'augmenter d'un cran, ou ne pas la suivre, gagner un peu moins d'XP et la baisser d'un cran. Donc, l'idéal, c'est bien évidemment que ça fasse monter une motivation, que ça fasse baisser l'autre. Et là, c'est le super pactole. Mais la nature des motivations n'évoluant pas comme dans un Smallville, où en fait, à chaque partie, tu redéfinis tes motivations un petit peu, ça évolue pas en nombre, t'en as 3, ou ça évolue très peu en qualification, parce que le seul moyen de changer une motivation, c'est d'en amener une à 0 et d'en créer une autre. Ce que j'appelle des conflits internes, ça tournerait assez vite court, parce que tu vas pas tous les scénars, tu vas pas reposer les deux mêmes motivations, quoi. Reste donc à créer du conflit avec les motivations des autres personnages, mais à moins d'avoir utilisé intelligemment sa motivation personnelle pour créer un lien avec un PNJ extérieur au groupe, tout tourne en vase clos. Si je suis chef du groupe et que je veux protéger Gazelle Girl qui fait partie du groupe, même si je suis amoureux d'elle ou quoi que ce soit, j'ai pas de conflit là-dedans. Alors que si, par exemple, ma bien-aimée, elle est en danger et ne fait donc pas partie du groupe, là j'ai un conflit, là j'ai un dilemme en fait, cornélien,
oui,
pour mon héros.
D'accord.
Et là on retrouve ce que c'est que l'héroïsme, parce que c'est choisir entre je sacrifie ma copine pour sauver le monde. Alors, je peux peut-être avoir une haine pour un équipier aussi, mais non, pas du tout, parce qu'on est des gentils, donc ça colle pas trop non plus, quoi. Donc on sent l'envie de faire du drama, mais pour moi, l'outil, il doit être un peu encore affûté pour y arriver, parce qu'il n'y a pas non plus de notion de hiérarchie dans les motivations, à part quand le MJ impose une épreuve de motivation, le PJ, il fait ce qu'il veut tout le temps. Même s'il favorise une motivation à 1 pendant tout le jeu pour ses choix, tout en utilisant pendant tous ses jets sa motivation à 3. Le jeu manque d'un exemple d'équipe de PJ, par exemple, ça aurait montré une bonne dynamique de motivation, et les persos montrés dans le jeu ne sont pas de bons exemples non plus, parce qu'ils ont surtout des motivations personnelles, et pas les 3 motivations comme on nous demande de créer les personnages. Alors, on va dire c'est parce que c'est des héros solés. Okay.
C'est-à-dire que les personnages qui sont décrits ne sont pas faits de la même manière.
Ils sont pas canoniques,
non,
en fait.
Ils sont pas canoniques, ouais, ok.
Enfin, ils sont pas, oui, par rapport. Ils sont peut-être par rapport à l'univers, je les connais pas, mais ils le sont pas
par rapport aux règles, c'est ce que je voulais dire.
Du coup, les PJ en fait vont avoir une palette de raisons d'action qui n'est pas si large, même en ayant 3 motivations. Il y a pas de code moral en fait non plus, à moins que tu le mettes dans tes motivations. À la limite, si tu mets pas ne pas tuer dans tes motivations, bon bah quelque part, c'est pas
grave.
Ça n'a pas de raison d'apparaître dans le jeu quelque part, je pense, selon moi, quoi. Donc bon, je vais conclure sur mon petite impression générale. Donc moi, c'est un puzzle de choses que j'ai vu ailleurs par l'initiative. Donc si ça venait peut-être de Brigade Chimérique. Alors le portrait d'ensemble, ça ressemble vraiment à quelque chose. Mais si on va dans le détail, il faut que tout le monde joue le jeu autour de la table pour pas voir les pièces manquantes ou pour pas abuser de telle ou telle règle, etc. De voir ce qui s'emboîte mal, quoi. Ou alors comme trop souvent, on brousse les manches, on patch pour faire en sorte que tout ça tienne debout. Et moi c'est par rapport à Dragon Poche, tu disais il tient sa promesse. Bon moi j'attends, je trouve ça normal que de nos jours les jeux tiennent leurs promesses et que des jeux tiennent la route intégralement.
Je le remarque et je le dis parce que c'est pas si souvent.
Je l'avais fait moi la remarque quand j'avais fait Hera aussi, c'était vraiment les mots qui nous venaient, c'était ça tient sa promesse, quoi. On nous dit que ça fait ça. Du coup en fait je recommande pas ce jeu à un MJ débutant. Mais plutôt un MJ qui ne sait pas sur quoi il veut focaliser son jeu de super-héros. Je le dis bien, il sait, je joue du super-héros, mais je sais pas vraiment sous quel angle, etc. Ou qui sait qu'il ne pourra pas faire passer un jeu trop focalisé à sa table. Est-ce qu'on fait que de l'action? Est-ce qu'on fait du soap? Est-ce qu'on fait de la résolution de scène un peu freeform? Est-ce qu'on veut de l'influence des joueurs sur l'environnement? Voilà, si tu veux un peu un mix de tout ça, ça peut aller. Ça peut aussi séduire un anglophobe, parce que qui n'aura pas vu justement ce qui se fait de toutes ces dernières années dans d'autres jeux en anglais, quoi. Voilà, du Fate, du Marvel.
Mais etc. Il en existe plein en français aussi, des jeux de super-héros.
Oui, maintenant. Mais qui, là, en fait, ce qu'on va retrouver là-dedans, différentes mécaniques et compagnie, on sait un peu ce qu'on retrouve depuis quelques années dans d'autres systèmes en anglais. Donc quelqu'un qui, effectivement, n'est pas trop aware là-dessus, bon. Ça peut être pas mal, ça peut être une bonne approche. Voilà, dire tiens, j'aime bien cet aspect-là, renseignons-nous. Voilà, et du coup, j'ai appris ça après ma chronique, parce que je l'ai fait en début de mois. Il y a déjà des suppléments prévus, notamment l'écran avec la description d'autres organisations et des conseils de masterisation. Et une douzaine de gros synopsis qu'un beau MJ de Rokama a transformé en scénario. Là, je lis ce qui était écrit. Hein. Et il y aura même deux autres suppléments encore dans le premier semestre. Voilà. D'accord. Bon, moi, quand je l'ai acheté, je savais pas. Voilà, on m'a pas dit que c'était en kit.
C'est pas en kit, c'est le truc habituel.
Et
ouais,
bim.
Ouais, mais bon, voilà, moi, c'est ça. Alors, tu me marques guide du joueur, quoi. Je sais que ça sert à rien. Je sais que c'est comme Cobra, quoi.
Non, c'est un DLC, en fait.
Un petit rappel à tous les créateurs de jeux, si vous ne voulez pas que votre jeu soit
chroniqué
par Callisto, mon RIB est le.
Voilà, bon, le système il repose sur des personnages qui sont bien faits, mais je trouve que c'est plus du ressort de la table que des guides qu'on va avoir dans l'ouvrage, quoi.
D'accord.
Après, je pourrais citer plein de failles, plein de petits trucs, mais bon, c'est pas.
D'accord. Eh bien, c'est. Non, okay. On n'a plus le temps.
Pas de problème, vas-y.
Eh bien, on s'arrête un petit peu, on fait une pause et on revient tout à l'heure. Salut !